RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis. Je vous propose jusqu'à 11h de parler de nos institutions qui jouent un rôle essentiel en fournissant un cadre organisé par la gouvernance, l'éducation, la justice et bien d'autres aspects vitaux de la vie collective. Mais malgré leur importance, nombre d'entre elles souffrent souvent d'un manque de visibilité et de compréhension publique. Alors pourquoi déjà c'est important de mieux connaître nos institutions? Et comment pouvons-nous mieux faire connaître ces institutions et leur rôle crucial dans nos vies? On en parle avec nos invités jusqu'à 11h. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous avez l'impression de connaître nos institutions? Est-ce que vous connaissez peut-être des associations ou des initiatives qui permettent de les découvrir, celles françaises, les européennes, les mondiales également? On vous attend au 04 72 38 20 23. Par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, deux invités que je vous présente tout de suite. Tout d'abord, Willy Breton, bonjour.
Oui, bonjour. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité pour votre émission.
Avec grand plaisir. Merci Willy. Vous êtes ancien adjudant et ancien officier de police judiciaire. Si vous êtes avec nous ce matin, c'est aussi parce que vous êtes le président de la Fédération du Mémorial de l'OTAN que nous allons découvrir ce matin dans cette émission. Un mot sur l'OTAN, peut-être. Quel regard vous portez sur cette organisation, cette institution, Willy Breton?
Alors c'est vrai que l'OTAN est méconnu du grand public. C'est surtout donc une organisation qui est défensive. C'est ce qu'il faut se souvenir. Et je crois que c'est le principal lorsque nous avons un regard sur l'OTAN. Et c'est ça le principal. Donc elle est composée actuellement de 32 pays et avec une devise particulière qui est un pour tous et tous pour un. Donc c'est ce côté-là qu'il faut regarder et être précis lorsqu'on parle de l'OTAN.
Mmh. Willy Breton, je vous présente notre deuxième invité, c'est vous, Éric Buge, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation.
Avec joie, merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueille ce matin en studio. Vous êtes le président d'une association Parlons Démocratie que nous allons présenter jusqu'à 11h. D'après vous, pourquoi c'est vraiment un sujet de démocratie, de faire connaître un peu plus nos institutions?
Ben, je crois que aujourd'hui, si on en doutait encore, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé le 6 janvier de l'année dernière aux États-Unis, l'invasion du Capitole, une démocratie pourtant ancienne qui est menacée. On peut aussi s'en convaincre en regardant les taux d'abstention qui sont croissants aux élections. Oui. Et le fait que si les citoyens ne se saisissent pas de la chose publique, personne ne le fera pour eux. Et donc nous, c'est vraiment notre combat. L'idée de dire il faut que la démocratie soit l'affaire de tous. Ouais. Et pour que la démocratie soit l'affaire de tous, encore faut-il qu'on comprenne suffisamment comment fonctionnent les institutions démocratiques. Et c'est précisément la mission que s'assigne Parlons Démocratie, l'association que j'ai l'honneur de présider.
L'assaut du Capitole des États-Unis par des partisans de Donald Trump, je précise, c'était pas l'année dernière, c'était en 2021, le 6 janvier. Voilà, petit point sur les dates, mais c'est sans importance. On parle de compréhension de nos institutions, des institutions. On évoque aussi la visibilité, rendre un peu plus visible les institutions. Ce sont deux choses différentes, d'après vous, Éric Buge, mais totalement complémentaires?
Oui, je crois que c'est pas parce que les institutions sont présentes aujourd'hui sur les médias, sur les réseaux sociaux, qu'elles sont comprises. Et il y a tout un travail de décryptage à faire du fonctionnement de ces institutions. Nous, on le constate au travers des interventions qu'on fait en école, collège, lycée, puisqu'on intervient du CM2 à la terminale.
Oui.
Et on constate que ces institutions sont méconnues, quand bien même les jeunes habiteraient à proximité d'elle. On intervient régulièrement en lycée à Cergy-Pontoise, qui est à une demi-heure de l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale semble être dans un autre monde pour ces jeunes de Cergy-Pontoise. Donc c'est pas parce qu'on est proche des institutions géographiquement qu'on en entend parler également dans les médias, qu'on comprend effectivement comment elles fonctionnent. Et voilà, il nous semble qu'il y a un vrai travail à faire de pédagogie, notamment auprès des jeunes, sur le fonctionnement de ces institutions.
Willy Breton, j'ai le sentiment qu'on n'a jamais autant parlé de l'OTAN. Alors j'exagère un peu quand je dis ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec le contexte de la guerre en Ukraine, des différentes déclarations et positionnements à la fois de Poutine et d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'OTAN. Pourquoi vous êtes vraiment engagé pour mieux la faire connaître?
Alors, tout d'abord, c'est parce que j'ai effectué 3 missions, donc ce qu'on appelle des opérations extérieures au profit de l'OTAN. Donc la première en Bosnie, la seconde au Kosovo et la dernière en Afghanistan. Donc j'ai pu voir au plus près donc le travail de mes camarades, de mes frères d'armes et des pays respectifs au sein de l'OTAN. Et je trouve que voilà, c'est un sujet primordial et on en parle encore un peu plus. C'est vrai actuellement avec la guerre en Ukraine, sachant que Monsieur Macron, le président de la République, avait indiqué que l'OTAN était en mort cérébrale. Et c'est vrai que cette guerre en Ukraine a réveillé les esprits et nous a fait sortir un peu de notre coma qu'on pouvait penser que l'Europe était en paix et que nous aurions plus de guerre en Europe. Donc c'est important de faire connaître l'OTAN et ses missions et surtout éviter de croire certaines fake news. Et mon but au travers de la Fédération du Mémorial de l'OTAN, c'est justement de faire connaître le travail de nos militaires, de nos frères d'armes qui sont morts pour la paix et la liberté.
Oui. L'OTAN qui est l'une des principales institutions internationales mondiales. Éric Buge, si on regarde au niveau de la France, parce que c'est vrai qu'on parle de ce terme depuis le début de cette émission, sans vraiment définir ce qu'on entend par institution, quelles sont nos institutions en France ?
Alors elles sont multiples. Bien sûr, les institutions auxquelles on pense au premier abord, ce sont les institutions nationales. Donc la présidence de la République, qui est le scrutin qui draine le plus d'électeurs tous les 5 ans en France. Les autres élections législatives, sénatoriales, qui permettent de désigner les représentants dans les 2 assemblées de la République. Le gouvernement, qui occupe une place centrale dans nos institutions, à tel point que bien souvent, lorsqu'un projet de loi passe en Conseil des ministres, on considère qu'il a déjà été adopté.
Oui.
Donc ça, ce sont les principales institutions nationales. Nous, on intervient aussi sur des institutions qui sont plus méconnues et que parfois les enseignants peinent plus à appréhender, que sont notamment les institutions locales, les collectivités territoriales, les mairies, les départements, les régions, mais aussi les institutions européennes qui, dans nos quotidiens, jouent un rôle croissant. Et donc, voilà, alors que peut-être, il y a une 50aine d'années, on pouvait se dire les institutions de la République, c'est le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, et le pouvoir législatif, c'est-à-dire les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Aujourd'hui, on a un nombre d'institutions qui va croissant, ce qui fait d'ailleurs que les citoyens, parfois, peinent un peu à se retrouver sur qui fait quoi, d'où la nécessité d'un travail en profondeur d'irrigation de la citoyenneté, notamment auprès des plus jeunes qui sont destinés bientôt à devenir les électeurs de demain.
Qu'est-ce qui vous a poussé à construire cette association Parlons Démocratie ? Alors, vous avez parlé de ce contexte de méconnaissance de nos institutions. Est-ce que l'abstention qui augmente aussi, notamment chez les jeunes, ça fait partie de vos déclencheurs, on va dire, pour l'association ?
Oui, tout à fait. Et plus largement, nous, on fait le constat que nos démocraties sont fragiles et qu'elles sont peut-être plus fragiles qu'on ne le pensait il y a encore quelques décennies. Aujourd'hui, dans le monde, on fait plus le dénombrement des nouvelles démocraties. On fait plutôt le dénombrement, et un certain nombre d'organismes le font très sérieusement, des régimes politiques qui reculent sur l'échelle de la démocratie. On en a des exemples en Europe, on en a des exemples sur le continent américain. Et donc c'est cet état global qui nous a fait nous alarmer sur ce constat de la fragilité des démocraties. Et comme vous le soulignez, l'abstention en est un signe, alors peut-être moins aigu qu'ailleurs, mais également un signe qu'on peut remarquer en France. Ça, c'était notre premier constat. Et deuxième constat, qui est celui des insuffisances aujourd'hui de l'enseignement moral et civique, qui est le nouveau nom d'une ancienne pratique qu'on appelait avant l'instruction civique. Cet enseignement moral et civique n'a pas la place qu'il devrait avoir dans nos écoles, notamment parce que les enseignants n'y sont pas formés. Aujourd'hui, comme vous le savez, les enseignements d'éducation morale et civique sont délivrés principalement par les profs d'histoire et de géographie. Et en conséquence, ces derniers ont été formés à l'histoire et à la géographie. Mais on leur demande, dans les faits, d'enseigner une troisième matière, qui est l'enseignement moral et civique, et pour laquelle, souvent, leur avance pédagogique vis-à-vis des élèves est faible, et en tout cas, beaucoup plus faible que dans d'autres matières. Donc, je crois qu'il y a une difficulté. On travaille en lien très étroit avec l'association des profs d'histoire-géographie, donc oui. Main dans la main avec l'éducation nationale. Mais on essaye d'apporter ce supplément d'âme à l'enseignement moral et civique pour en faire un vrai passage obligé dans toute l'éducation des jeunes générations.
Mmh. Willy Breton, quel regard vous portez sur ce que vient de dire Éric Buge? Est-ce que vous êtes d'accord? Il faudrait qu'on en fasse pareil avec d'autres institutions comme l'OTAN?
Oui, tout à fait. C'est crucial. Hein, et donc c'est important et j'adhère entièrement à ce que votre invité donc, a indiqué. C'est important de traiter le sujet avec nos plus jeunes parce que c'est nos adultes futurs. Donc il faut vraiment traiter les sujets à la base et afin qu'il ait une bonne orientation sur les sujets traités justement. Et c'est important pour que ces jeunes puissent avoir confiance et vivre donc une vie bien stable avec les renseignements qui sont donnés et l'enseignement qui leur sont donnés.
C'est en 2010, hein, après une troisième opération extérieure, une OPEX, que vous avez eu cette volonté, Willy Breton, d'honorer la mémoire de deux militaires qui ont été tués au combat durant votre mission en Afghanistan, avec la création d'un mémorial à part entière qui se trouve à Fréthan, dans le nord de la France. Il n'y avait rien pour honorer les militaires qui se sont battus pour l'OTAN.
Oui, tout à fait. Il n'y avait rien de palpable. Donc c'est à mon retour d'Afghanistan, de ma mission en Afghanistan, que j'ai eu l'idée de créer ce mémorial. Ce mémorial a été inauguré donc le 25 février 2012. Donc il est implanté sur la commune de Fréthun dans le Pas-de-Calais. Maintenant il est accompagné de quatre stèles, une tchèque, une allemande, une belge et une pour les animaux militaires. Mmh. Donc ces chiens qui ont été principalement tués en Afghanistan de divers pays.
Mmh. J'aimerais qu'on accueille Elisabeth au 04 72 38 20 23. Bonjour Elisabeth. Ah zut, eh bien, Elisabeth a raccroché, c'est pas grave. Si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rappeler pour venir témoigner. Willy Breton, donc je rappelle ce mémorial que vous avez créé, le mémorial de l'OTAN qui a été inauguré en février 2012. Ça a pris de l'importance notamment pour les familles de ceux qui ont péri ou en tout cas qui ont été blessés dans des opérations.
Oui, tout à fait. Donc ce mémorial commence à être connu sur le territoire national et à l'étranger. Donc les familles viennent de différents pays se recueillir au mémorial et nous avons aussi des blessés qui viennent et c'est principalement aussi pour eux que nous travaillons. Nous mettons en place aussi des événements qui soient sportifs ou autres à destination des blessés et nous en avons prochainement un au mois d'août justement lié aux blessés.
Et dans quelle mesure vous essayez vous de transmettre ce qu'apporte l'OTAN et puis cette mémoire aussi de militaires tués sur le terrain aux jeunes? Comment vous faites pour un peu comme fait d'ailleurs Éric Buge pour les institutions françaises, comment vous faites pour transmettre ce qu'est l'OTAN?
Alors dans un premier temps nous le faisons au travers de nos commémorations qui sont atypiques. Mais aussi au travers d'un programme sport qui a été mis en place, puisque c'est important de faire participer nos jeunes dans différents domaines et leur promouvoir le devoir de mémoire. Et je crois que l'actualité nous le démontre chaque jour. Et puis c'est important aussi de poursuivre ce devoir de mémoire. Et donc nous avons entre autres mis un programme sport en place afin de promouvoir le devoir de mémoire, mais aussi quelque part la citoyenneté avec un logo qui a été instauré au sein de la Fédération du Mémorial de l'OTAN pour le programme sport, et qui, par l'image, représente les valeurs d'amitié, de fraternité, de camaraderie, de réconciliation et de paix par le sport. Et lorsqu'on regarde ce logo, il est vraiment visuel, et nos jeunes le reconnaissent facilement les valeurs qui sont représentées, mais aussi au travers de nos différentes actions qui sont menées en France ou à l'étranger.
Des valeurs que vous essayez également, Éric Buch, de transmettre, alors peut-être pas toutes ces valeurs ou des valeurs différentes, mais dans l'association Parlons Démocratie avec tous les jeunes que vous rencontrez.
Oui, tout à fait. Notre objet social, ça n'est pas seulement de transmettre des valeurs ou de transmettre la connaissance des institutions, c'est de le faire d'une manière très particulière. Oui. Qui est d'incarner le message que nous portons. L'idée n'est pas de faire une leçon de morale aux jeunes en disant « il faut aller voter, c'est bien d'aller voter, il est nécessaire d'aller voter », c'est leur donner envie d'aller voter. Et pour ça, on a deux manières de faire qui consistent toutes les deux à incarner le message que nous portons. La première de ces manières, c'est de mettre en face des jeunes des personnes qui ont un souffle pédagogique particulier pour animer la conscience civique des jeunes, et ce souffle pédagogique, ils l'ont acquis au gré de leur expérience professionnelle. Donc c'est pas pareil d'avoir un enseignant qui parle de la justice ou du Parlement et d'avoir quelqu'un dont c'est le métier. Un magistrat qui vient parler de son métier, du fonctionnement de son tribunal, ça parle beaucoup plus aux jeunes et on capte l'attention de manière très immédiate. Avoir un ancien élu local qui vient indiquer comment il a mené à bien tel ou tel projet, ça permet aussi d'incarner la démocratie locale. Donc ça, première manière pour nous d'incarner notre message, c'est de mettre au contact des jeunes, non pas toute personne informée sur les institutions ou quelqu'un qui en saurait plus, mais quelqu'un dont c'est le métier et qui va pouvoir raconter de l'intérieur quelle est son expérience, son vécu de la justice, du Parlement, des collectivités territoriales. Et puis, deuxième manière, c'est de développer une pédagogie active. Nous, notre philosophie, c'est d'apprendre en faisant. Et je veux pas détourner le titre de votre émission, mais nous, c'est « J'agis, donc je pense ». C'est-à-dire, on met les jeunes en situation de faire. On leur fait faire des simulations de débats parlementaires, des simulations de procès, des simulations de conseils municipaux. Et ils expérimentent eux-mêmes quelles sont les complexités de la prise de décision collective. Et ça conduit à la pensée, ça conduit à réfléchir sur le fonctionnement des institutions et à incorporer des réflexes en matière institutionnelle et qui passent aussi d'ailleurs par des savoir-être. Savoir s'écouter, savoir débattre, savoir délibérer, changer d'avis, se respecter dans la discussion. C'est aussi un ensemble de qualités qui sont développées par nos modules pédagogiques, donc de pédagogie active, où les jeunes sont mis dans la peau d'un responsable public et ils en ressortent parfois transformés avec des vocations qui naissent ou en tout cas des petites flammes qui sont allumées et qui permettent d'inscrire durablement en eux ce souci des institutions et cette attention à la chose publique.
J'agis donc, je pense. Je vous autorise à détourner le nom de l'émission comme l'ont fait de nombreux invités depuis la création de l'émission en 2020. On parle souvent de confiance également envers les institutions. Dans quelle mesure faire ce que vous faites au sein de l'association Parlons Démocratie, c'est-à-dire d'apporter une espèce de connaissance approfondie quand même des missions des institutions, leurs fonctions, le processus décisionnel, dans quelle mesure ça permet de renforcer cette confiance des futurs citoyens, des citoyens?
Oui, tout à fait. Alors, dans notre diagnostic, et nous, on n'a pas pour vocation d'étudier, mais bien de faire. Mais bien sûr, quand on fait, quand on intervient en classe, on en retire une certaine expérience de la manière dont les jeunes, notamment, perçoivent les institutions. Et ce qui nous semble, c'est que la défiance que les politistes, les sociologues ont notée de manière contemporaine, défiance des citoyens dans les institutions publiques, bien sûr, n'a pas un seul facteur. Il serait naïf de croire que parce que nos concitoyens connaîtront au mieux le fonctionnement de leurs institutions, la confiance renaîtra instantanément. Mais il nous semble aussi qu'un des facteurs de cette défiance est la méconnaissance des institutions démocratiques. Lorsqu'on ne sait pas comment est votée une loi, lorsqu'on ne sait pas comment est prise une décision par le conseil municipal, lorsqu'on ne sait pas comment est prise une directive par l'Union européenne, et là on entre dans un niveau de complexité qui est encore plus important, eh ben on est perméable à toutes les fausses nouvelles, à toutes les rumeurs, et on n'a pas le recul critique qui est nécessaire pour faire la part des choses entre la réalité et la fiction. Et donc, une meilleure connaissance des institutions ne va pas rétablir de facto la confiance, mais est, dans notre analyse, en tout cas, un puissant rempart à la défiance et à la rumeur qui peuvent se répandre. Donc, c'est en tout cas une partie de notre diagnostic de dire que la connaissance des institutions est aussi un remède à cette défiance croissante qu'on peut tous et toutes observer.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour témoigner, pour nous parler des institutions en France, mais aussi dans le monde. Est-ce que vous avez l'impression de les connaître? Est-ce que vous connaissez des associations ou des initiatives qui permettent vraiment de découvrir les institutions, que ce soit en France ou à l'étranger? On vous attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23.
Je pense donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 11h, Éric Buge, je rappelle que vous êtes le président de l'association Parlons Démocratie, et Willy Breton, vous êtes ancien adjudant et ancien officier de police judiciaire et président de la FMO, la Fédération du Mémorial de l'OTAN. Je reviens sur les valeurs que vous avez évoquées tout à l'heure, les valeurs d'amitié, de fraternité, de camaraderie, de réconciliation et de paix. Comment vous faites avec les jeunes pour essayer de les transmettre, ces valeurs? Je crois que vous avez même lancé un programme plus spécialement tourné vers les jeunes.
Oui, c'est ça. Tout à fait. Déjà, alors comme votre invité, on les fait travailler sur le sujet lorsqu'ils déjà viennent à notre rencontre. Ils rencontrent des familles de militaires tués ou des blessés, et c'est très important pour eux d'avoir du visuel et du palpable. Après, donc concernant le programme sport, donc il est à destination de tous. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc le logo est visuel, et donc soit ils participent aux commémorations, ou soit d'une autre manière, puisque les jeunes sont pas forcément intéressés sur le côté commémoratif, ils préfèrent participer avec le côté sport et promouvoir à leur niveau le devoir de mémoire et les valeurs qu'ils représentent. Je vais vous donner un exemple. On a un jeune homme qui est de 17 ans, Mathéo, qui est vice-champion d'Europe de jet ski et champion du monde de jet ski, qui a à ses frais a dessiné sur son casque le logo du mémorial et le mémorial, afin de promouvoir justement ce mémorial et les valeurs qu'il représente lors de compétitions à l'international. Nous avons un de nos parrains aussi qui était capitaine de l'équipe nationale de basket en Côte d'Ivoire, qui lui aussi participe aussi au travers et fait connaître au travers des jeunes ce que nous représentons et les valeurs qu'on essaie de promouvoir. Donc c'est comme ça que nous arrivons à faire connaître aux plus jeunes le devoir de mémoire et les valeurs qu'ils représentent.
Bonjour Suzanne.
Bonjour. Moi c'est Henriette aussi.
Henriette et Suzanne. Bon bah écoutez, il va falloir choisir.
Oui voilà, bonjour messieurs, merci de ce que vous faites. Alors, première petite demande, oui. Pour les personnes qui comme moi ont internet mais de façon très très limitée dans mes compétences, ce serait intéressant tout de même que vous puissiez nous donner comment on trouve votre site, comment on trouve sur un journal lambda.
Voilà. On va le faire.
C'est important. Vous le trouvez facilement. Alors oui, ma question, alors elle se pose pour la raison suivante. Je suis quelqu'un qui est bien au-delà de 70 ans. Je vais voter en principe. Sur une question de principe, d'ailleurs déjà à la base, on nous dit toujours oui, les gens âgés vont voter, de toute façon il n'y a pas de problème, les politiques ne s'inquiètent pas, ils iront. Mais moi je suis intéressée par le vote des jeunes, voire des très jeunes. Mais personnellement je suis dans une impasse, donc je vais voter parce qu'il y a de nombreux pays dans lesquels on n'a pas le droit de vote, et qu'en tant que femme, ma maman n'avait pas certains droits il y a quelques années, voyez-vous. Mais à part ça, je me dis comment je fais pour les Européennes. Parce que j'ai essayé de lire un peu quelques articles dans les journaux, mais je crains que ça vienne à faire un vote pour un certain nombre de personnes. Pas tout le monde, hein, il y a des gens très instruits qui vous écoutent. Mais pour un certain nombre de personnes dont je fais partie, je veux surtout pas faire ça, justement, un vote franco-français, quoi. J'aime pas les gens de droite, j'aime pas les gens de gauche, etc. Or, pour comprendre le rapport
et le mécanisme aussi.
À la partie européenne, oui. Avec Mme von der Leyen et compagnie, on est largué complètement, excusez-moi de ce terme trivial.
Eh ben non, mais vous faites bien de le dire, on est largué. Et merci beaucoup Henriette et Suzanne, les deux en même temps, d'avoir témoigné au 04 72 38 20 23. Je précise, et tiens, je vous annonce qu'on va faire une semaine spéciale élections européennes dont je pense donc j'agis. À partir du lundi 13 mai, on parlera des enjeux écologiques, enjeux liés à la migration, aux migrations, la défense, la sécurité, l'agriculture également. Bref, il y aura plein de sujets. Et puis, bien sûr, la paix, ça a de l'importance. Voilà, à partir du 13 mai, dans Je pense, donc j'agis, je me tourne vers vous, Willy Breton. Non, pardon, Éric Buge, par rapport à ce témoignage qu'on vient d'entendre d'une auditrice qui n'est pas jeune et qui pourtant se pose quand même cette question. Et se dit, j'y comprends rien aux élections européennes, je ne sais pas trop vraiment pour qui voter. Comment vous faites, vous, Éric Buge, pour essayer de répondre à ces interpellations? J'imagine que les jeunes ont également sur certaines institutions et élections.
Tout à fait. Et je crois qu'il faut prendre ensemble une seconde pour s'étonner du commentaire et du témoignage de votre auditrice. Pourquoi s'en étonner ? Parce qu'on vit en démocratie, en République. Et pourtant, et le témoignage de votre auditrice est révélateur, nous on en reçoit vraiment énormément de la sorte. Et pourtant, les citoyens ont le sentiment d'être en quelque sorte dépossédés de la chose publique. Non pas dépossédés parce qu'on leur retirait le pouvoir, mais dépossédés parce qu'ils n'ont pas un niveau de connaissance suffisant sur l'objet des scrutins auxquels on leur demande de participer. Et aujourd'hui, c'est les élections européennes. Demain, ce sera peut-être les élections départementales ou régionales. Il est parfois difficile de comprendre quelles sont les compétences de chaque niveau de collectivité territoriale entre la commune, le département, la région. Et donc, le témoignage de votre auditrice est tout à fait révélateur, qu'il y a un déficit de connaissances majeures sur le fonctionnement des institutions. Et je rebondis sur l'objet même de ce témoignage, que sont les institutions européennes, parce qu'en plus, comme vous l'avez rappelé, on est dans une période préélectorale s'agissant des élections européennes. Les institutions européennes sont complexes parce qu'elles sont le fruit de l'histoire. Et il y a un certain nombre d'institutions dans le cadre de l'Union européenne qui ont chacune leur rôle, mais qui peinent à être appréhendées. La différence entre le Conseil européen, le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, est parfois difficile de savoir qui fait quoi exactement. Nous avons pris le problème à bras-le-corps en recrutant au sein de l'association Parlons Démocratie des anciens des institutions européennes. Donc des personnes aujourd'hui à la retraite et qui vont incarner cette pédagogie de la rencontre dont je parlais tout à l'heure et qui ont notamment créé des modules très pratiques pour faire vivre aux jeunes le fonctionnement des institutions européennes. Je vous donne un exemple. Cet exemple qu'ils ont donc créé et qu'ils mettent en œuvre dans de nombreux collèges et lycées, c'est un cas qui s'est posé à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc une vraie affaire qui s'est posée à la Cour de justice de l'Union européenne et qui concernait un demandeur d'asile syrien qui était hébergé dans un foyer en Belgique, demandeur d'asile mineur, et qui se comporte mal dans ce foyer, qui est mis à la porte de son foyer. Oui. Et donc, in fine, la Cour de justice est saisie pour savoir si le foyer belge a le droit ou pas de mettre à la porte ce jeune demandeur d'asile syrien. Donc, c'est un vrai cas qu'a eu à trancher la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, dit comme ça, ça peut paraître compliqué, mais je vous assure que les jeunes, lorsqu'on leur explique ces faits, sont capables de se prononcer sur ce cas, ont des arguments, disent « c'est injuste pour l'intéressé, il est mineur, il faut lui pardonner » ou « quand on se comporte mal, il faut en assumer les conséquences, donc c'est normal que le foyer puisse le mettre à la porte ». Et donc on entre ainsi par l'exemple dans le fonctionnement concret d'une institution européenne qu'est la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, un exemple parmi d'autres sur comment acquérir concrètement la connaissance de ces mécanismes institutionnels.
Et on va continuer d'en parler dans un instant dont Je pense donc j'agis, le temps de marquer une petite pause. Vous faites comme Henriette, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour nous parler de nos institutions. Est-ce que vous avez l'impression de les connaître et puis comment les faire mieux découvrir? 04 72 38 20 23, à tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Malgré l'importance de nos institutions, nombre d'entre elles souffrent souvent d'un manque de visibilité et de compréhension publique. Alors comment pouvons-nous mieux faire connaître ces institutions et leur rôle crucial dans nos vies quotidiennes? On en parle avec nos deux invités, Eric Buge et Willy Breton, jusqu'à 11h avec vos témoignages, vos réactions au 04 72 38 20 23. Par mail à direct@rcf.fr ou alors directement dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Quand au fond de camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment.
Le sel, c'était une chanson d'Olivia Ruiz pour vous accompagner en ce mercredi matin.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et on parle des institutions jusqu'à 11h avec Eric Buge. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Parlons Démocratie et Willy Breton, ancien adjudant et ancien officier de police judiciaire et président de la Fédération du Mémorial de l'OTAN. Vous avez parlé, Willy, il y a quelques instants du programme sport à destination des jeunes. Je crois aussi que vous essayez de faire passer quelques valeurs par la musique.
Oui, tout à fait. Donc nous avons créé un hymne pour le mémorial qui est interprété par une jeune fille donc qui s'appelle Aude qui a 15 ans et donc voilà, c'est aussi au travers de cette hymne promouvoir donc ces valeurs de camaraderie et d'amitié qui sont importantes à nos yeux. Et aussi comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure et précisé, c'est de faire intervenir directement nos jeunes dans ce travail de mémoire. Et elle le fait magnifiquement. D'ailleurs, elle est passée à certaines émissions de Radio Crochet à la télévision comme Voice Kid.
Oui, The Voice Kids. Ouais.
Voilà, c'est ça tout à fait. Donc c'est important et puis aller vraiment enthousiaste à promouvoir ces valeurs auprès de la jeunesse.
Et ça fonctionne? Est-ce que d'autres jeunes se sentent sensibilisés?
Oui, tout à fait. Donc on a plusieurs jeunes et qui travaillent au sein de la fédération du mémorial de l'OTAN qui sont bénévoles. Et j'allais dire qu'on a plus en plus de jeunes qui viennent à nous lors des commémorations. Nous avons, même si c'est un week-end, nous avons des écoles qui participent aussi donc à cette cérémonie, à cet hommage. Et voilà, on essaie de promouvoir ce devoir de mémoire d'une façon atypique et dépoussiérer ce devoir justement de mémoire afin de toucher un plus grand nombre dans le cadre des relations internationales et de la construction européenne.
On a reçu un message d'Alain par mail à l'adresse direct@rcf.fr qui nous dit « Beaucoup de personnes votent aux européennes pour sanctionner le gouvernement. Ils n'ont rien compris et affaiblissent la démocratie. C'est ridicule. » Éric Buge, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut être aussi binaire? Est-ce que, justement, si il dit ça, Alain, ça veut aussi dire que des personnes ne connaissent pas assez les mécanismes d'une élection comme l'élection européenne?
Oui, ou connaissent trop bien, au contraire, les mécanismes de notre vie politique et savent que les commentateurs, dès le lendemain des élections, eux-mêmes, et donc non pas les électeurs, mais les commentateurs, commenteront les résultats des élections européennes en fonction de la politique nationale et non pas en fonction des répercussions de ces élections européennes, ou pas seulement, en tout cas, ou pas principalement, en fonction des répercussions de ces élections européennes sur les institutions européennes, la composition du Parlement européen, la composition également de la Commission européenne. Et il y a fort à parier que le soir des élections, les grandes chaînes de télévision diffuseront un camembert qui représentera l'échiquier politique français et quel parti a eu combien de voix et non pas un échiquier politique européen qui agrégerait les résultats des différentes élections dans les différents pays européens. Donc il y a une culture politique dans laquelle bien sûr on s'insère et dont on ne peut pas faire abstraction, mais qui va au-delà des citoyens, qui une culture politique plus globale et donc il faut juste être conscient que le vote pour les élections européennes est d'abord un vote pour désigner des personnes au Parlement européen.
Ça veut dire aussi que les médias ont un rôle à jouer sur toutes ces questions, de faire connaître peut-être nos institutions sous un meilleur aspect.
Oui, et je vous remercie à nouveau pour l'organisation de cette émission qui y contribue. Je crois que les médias, bien sûr, ont un rôle qui est essentiel. Les institutions, les différentes institutions, ont d'ailleurs une politique de communication institutionnelle. L'Assemblée nationale est présente sur les réseaux sociaux, sa présidente est présente aussi dans moult émissions de radio, de télévision, porte la parole de l'institution. Nous, notre rôle, c'est pas de dupliquer la communication institutionnelle de l'Assemblée nationale, du Sénat ou des institutions européennes, mais bien de mettre au contact des jeunes des gens d'expérience. Donc cette pédagogie de la rencontre qui permet d'allumer des petites flammes de ci, de là et de pouvoir échanger. Parce que la différence entre les interventions qu'on peut faire en classe et un passage d'une personnalité politique dans un média, c'est que dans un média, le plus souvent, vous ne pouvez pas interagir avec la personne. Vous écoutez, vous êtes récepteur de son message. Alors que lorsque nos magistrats, nos élus interviennent en classe, les jeunes peuvent leur poser des questions. Et pour vous donner une petite anecdote, moi j'étais dans une école de Savoie il y a quelques mois et donc c'était dans une classe de CM2 et un des jeunes me demande « mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une faute d'orthographe dans la loi ?» Moi qui est la navette parlementaire vue avec des yeux d'enfant, qui dupliquait sa propre pratique scolaire sur le législateur. Et ça, c'est vrai que pour un enseignant, il est parfois difficile de répondre à ces questions, alors que lorsqu'on travaille au quotidien à l'Assemblée nationale, eh ben c'est une question à laquelle on peut répondre et qui permet derrière d'expliquer la navette parlementaire, le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la fabrication de la loi et d'expliquer la raison d'être de cette navette parlementaire qui prend parfois un peu de temps. Donc les médias, bien sûr, ont un rôle à jouer, mais je crois pas qu'il faille se focaliser exclusivement sur les médias. La rencontre interpersonnelle est aussi majeure pour permettre d'expliquer comment fonctionnent de l'intérieur les institutions démocratiques.
Un mot également sur ce que vous faites, vous, dans l'association Parlons Démocratie, parce que vous avez différents modules que vous avez pu mettre en place, notamment, alors ça, j'aurais bien voulu participer plus jeune, les simulations parlementaires. Alors, rien que le nom me donne envie, mais l'idée, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'essayer vraiment d'être dans le concret, dans la simulation pour vraiment faire passer les meilleurs messages.
Exactement. L'idée, c'est d'apprendre en faisant et non pas d'apprendre en recevant un message, y compris d'un intervenant extérieur qui va peut-être être un moment un peu différent des cours habituels, donc qui peut déjà marquer un peu les jeunes, mais surtout apprendre en faisant et être dans la peau d'un député, d'une députée, ou d'un sénateur, d'une sénatrice pendant une heure et demie, et d'être en situation de participer à l'écriture d'une loi. Donc on prépare des cas qui peuvent parler aux jeunes, par exemple sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine de leur école ou de leur collège, sur la régulation des trottinettes en ville, la régulation des réseaux sociaux ou l'abaissement de l'âge du vote à 16 ans. Et les jeunes préparent des amendements comme des députés classiques, présentent leurs amendements, discutent leurs amendements et à la fin votent sur la proposition de loi qui leur est soumise. Et ça permet de faire l'expérience concrètement du processus de fabrication de la loi, et c'est beaucoup plus efficace que simplement de dire bah voilà, il y a deux assemblées elles sont élues comme ci comme ça et elles ont tel et tel pouvoir. On y vient bien sûr à ces aspects-là, mais dans un deuxième temps, une fois que les jeunes ont fait l'expérience par eux-mêmes de ce qu'est voter la loi, de la complexité à se mettre d'accord, ne serait-ce qu'à 25 ou à 30 dans une classe. Ça leur fait toucher du doigt pourquoi à 577 députés, et ben c'est aussi encore plus compliqué de se mettre d'accord.
Voilà, des simulations parlementaires. Oui, Breton, il faudrait faire pareil. Des simulations de sommet de l'OTAN, par exemple.
Oui, tout à fait, c'est une très bonne idée et je félicite le travail effectué par votre invité, puisque c'est important justement de débattre sur ces sujets et de faire connaître aux plus jeunes nos institutions. Et le fait de pouvoir débattre justement sur l'OTAN serait une très bonne chose, et puis éviterait justement les fausses informations.
Parce qu'on sent, en ce moment, ce besoin d'expliquer beaucoup plus ce qu'est l'OTAN. On avait un invité dans la première partie, je pense, donc Jagi, qui a repris nos propos quand on disait l'OTAN doit attaquer. Il nous a dit, mais non, l'OTAN n'est pas là pour attaquer, mais pour défendre. Rien que ça, Willy Breton, ça veut dire quand même qu'il y a une demande peut-être de la part des citoyens en France, mais aussi dans l'Atlantique Nord, mais de connaître un peu plus l'OTAN.
Oui, tout à fait. C'est ça justement qui est méconnu. L'OTAN est une alliance de défensive. Oui. Comme je vous l'ai indiqué, donc c'est un pour tous, c'est tous pour un. Et il y a aucune action agressive de l'OTAN. Elle est là pour protéger donc les frontières de l'OTAN et des différents pays qui la composent. Donc voilà, c'est ça le but, et c'est ça justement qui est mal compris par nos interlocuteurs et dans le cas présent nos auditeurs, où c'est nécessaire justement d'exprimer ce sujet.
Vous parlez de l'OTAN, vous, Éric Buge, dans l'association Parlons Démocratie?
Alors, à date, on n'en parle pas, mais on parle de beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure les institutions européennes, les collectivités territoriales, mais pourquoi pas faire effectivement un débat, un module sur l'OTAN. Nous, notre préoccupation, c'est d'approcher les jeunes avec des sujets qui leur parlent. Oui. Et là, l'OTAN a une actualité incontestable. Et donc, pourquoi pas faire à un moment donné une discussion de type parlementaire, par exemple, sur l'OTAN, ou un débat, comme il peut s'en organiser au Sénat ou à l'Assemblée nationale sur l'OTAN avec les jeunes. Je suis sûr qu'ils seraient très intéressés, notamment en lycée, parce qu'il faut un certain degré de maturité quand même pour comprendre ces sujets-ci. Mais je note avec intérêt, effectivement, cette suggestion.
Pourquoi pas un grand témoignage, parce que ça fait partie des modules où vous faites intervenir dans l'association des personnalités assez marquantes du monde des institutions. Ça pourrait être l'occasion de faire intervenir Willy Breton pour nous parler de l'OTAN et de ce qu'il fait pour la fédération.
Eh bien, pourquoi pas.
Je lance les invitations. Hein.
Et je suis sûr qu'on trouvera sans difficulté un lycée susceptible d'accueillir Willy Breton. Et vous avez raison de souligner la place essentielle de ces grands témoignages dans l'action de notre association, dont le président d'honneur est Jean-Louis Nadal, ancien procureur général près la Cour de cassation, qui a présidé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est vraiment trempé dans l'acier de la justice, qui a passé 40 ans. Et lorsqu'il il vous raconte comment est-ce qu'il a géré, lorsqu'il était procureur de la République à Créteil, la prise d'otage, une prise d'otage à la prison de Fresnes, ben là, vous entrez directement dans le cœur du sujet de ce qu'est un procureur de la République. Et donc, ces grands témoignages ont une valeur irremplaçable. On a également François Molins qui intervient au sein de l'association. Et lorsqu'on l'a fait intervenir dans un lycée du Bourget, en Seine-Saint-Denis, la première question, ça a été « Mais moi, pourquoi est-ce que je suis deux fois plus contrôlé que mon petit camarade qui n'a pas la même couleur de peau que moi ?» Vous voyez, ça, c'est des questions que les jeunes se posent et à qui et ils n'ont en général pas d'interlocuteur à qui les poser. Ouais. Et donc, avoir quelqu'un du rang de François Molins avec son autorité qui apporte des réponses à ces questions, qui dit lorsque ça va et lorsque ça ne va pas aussi, et ben pour les jeunes, c'est le sentiment d'être reconnu, d'être pris au sérieux et que leurs questions, enfin, trouvent une réponse par un interlocuteur incontestable.
François Molins, ancien procureur de la République, notamment, en effet, qu'on avait reçu sur RCF il y a pas très longtemps, dans la matinale. Voilà, je perds mes mots. Qu'est-ce que je voulais vous dire également, Eric Buch, parce que vous faites beaucoup de choses, hein, on le rappelle, dans l'association Parlons de démocratie. Comment on forme les encadrants, comment on forme les enseignants aussi pour toutes ces questions de vie démocratique? Est-ce que vous proposez des ateliers, je crois aussi des cafés citoyenneté?
Tout à fait. Et vous pointez là un sujet qui est vraiment un sujet majeur, qui est le manque de formation des enseignants sur les questions d'éducation morale et civique. Comme je vous le disais tout à l'heure, notamment au collège, l'éducation morale et civique est la charge des enseignants d'histoire et de géographie, qui sont formés en histoire et en géographie, mais qui sont pas formés au fonctionnement des institutions. Et donc, tout le plaidoyer de notre association, c'est de faire en sorte que la formation des enseignants s'améliore et que lorsqu'on enseigne l'instruction civique, on reçoit une formation dédiée, tant en formation initiale pendant ses études que en formation continue. Et nous, on apporte notre pierre à l'édifice. On a formé l'an dernier 400 profs. On va en former 1 000 000 cette année sur des sujets aussi divers que le fonctionnement de la justice, l'environnement et la constitution. Donc des sujets parfois très spécialisés, bien sûr beaucoup plus spécialisés que ceux qu'on va développer directement vis-à-vis des élèves. Mais les profs ont une demande de formation très importante et qu'on développe en lien avec les rectorats dans toutes les académies. Et en lien avec l'association des profs d'histoire et de géographie, que je tiens particulièrement à saluer, avec qui on a une convention. Et effectivement, les cafés citoyenneté que vous mentionniez sont des petits événements en ligne où nos intervenants vont former les membres de l'association des profs d'histoire et de géographie en ligne sur des thématiques particulières. Par exemple, dernièrement, on a fait le Conseil constitutionnel.
Oui. Voilà, beaucoup de modules, beaucoup de propositions différentes. Willy Breton, qui peut vous rejoindre au sein de la Fédération du Mémorial de l'OTAN?
Toutes les personnes, il n'y a aucune restriction, toutes les personnes qui sont intéressées justement par le devoir de mémoire et promouvoir les valeurs du mémorial. L'adhésion est gratuite justement afin de pouvoir faire adhérer le plus grand nombre, surtout les plus jeunes. Et voilà, donc nous avons actuellement environ 38 500 adhérents sympathisants. Donc on peut adhérer à titre individuel ou collectif. Nous avons même des mairies, des villes qui adhèrent à la Fédération du Mémorial de l'OTAN puisque ils apprécient le travail qui est effectué justement pour promouvoir le devoir de mémoire et le dépoussiérer et apprécient les activités et actions que nous menons.
Un devoir de mémoire afin d'impliquer, vous l'avez dit, Willy, les nouvelles générations dans les relations internationales, mais aussi dans le cadre de la construction européenne. Là, à quelques mois des élections européennes, vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans la fédération?
Oui, tout à fait, puisque comme l'a indiqué votre invité, les gens sont un peu perdus avec l'Europe et méconnaissent justement le méconnaissent le travail de nos députés européens, donc qui malheureusement on risque d'avoir une certaine abstention au niveau de notre prochaine élection. Et voilà, les actions doivent être menées justement pour promouvoir l'Europe et la construction européenne, et principalement pour la fédération, la défense européenne, qui est un sujet primordial au vu de l'actualité. Et voilà, nos actions aussi et nos actions au travers de la présence de nos camarades européens et frères d'armes permet aussi de promouvoir cette coordination européenne.
Quel est l'avenir de votre fédération, d'après vous, Willy, même si c'est dur de regarder l'avenir, mais est-ce que vous avez envie de mettre en place d'autres initiatives encore?
Oui, tout à fait. Nous mettons en place d'autres initiatives et en coordination là aussi avec des mairies, avec des partenaires qui soient publics ou privés ou d'autres associations, puisque le sujet est important et les gens sont demandeurs. Donc nous avons énormément de demandes, mais malheureusement nous sommes obligés de limiter ces demandes et de refuser certaines, puisque on a actuellement, donc on est comme beaucoup de monde, nous recherchons des financements, et pour pouvoir justement accéder et accepter certaines demandes, donc nous sommes obligés de nous limiter actuellement. Mais les demandes sont vraiment importantes. Et nos actions aussi le sont au travers des sujets évoqués.
Et on prendra des nouvelles, Willy Breton, de votre très belle fédération. Je rappelle, fédération du mémorial de l'OTAN. Éric Buge, justement pour les élections européennes, alors vous avez dit que y avait du boulot. Vous allez continuer jusqu'à la date?
Bien sûr, et non seulement on va continuer, mais on va amplifier. Pour vous donner un chiffre, l'an dernier, on a sensibilisé 5000 jeunes au fonctionnement des institutions. Cette année, on va en sensibiliser 15000. Et donc, c'est un rythme de doublement ou de triplement du nombre de jeunes sensibilisés chaque année qu'on a depuis la création de l'association en 2020. Et on compte pas s'arrêter en si bonne marche. Et d'ailleurs, je profite de votre antenne pour lancer un appel à tous vos auditeurs et à toutes vos auditrices pour leur indiquer que si nos actions vous parlent et si vous partagez notre préoccupation pour la fragilité de nos démocraties, vous pouvez bien entendu nous rejoindre. Vous pouvez aussi nous apporter votre soutien financier, comme le disait votre précédent interlocuteur. L'argent est le nerf de la guerre pour les petites associations comme les nôtres. Ouais, si on veut pouvoir se déplacer dans tous les collèges de France, dans tous les lycées de France, y compris ceux qui sont en dehors des grandes villes, dans les zones isolées, rurales, ça coûte un peu d'argent. Et donc voilà, on est preneur de tout soutien. Alors bien sûr, de professionnels qui souhaiteraient nous rejoindre pour ensemencer la citoyenneté dans les écoles, les collèges et les lycées, mais également plus largement de toute personne qui se retrouve dans nos actions et qui pourrait vouloir nous soutenir financièrement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous semble-t-il, la démocratie doit être l'affaire de tous. Et c'est ce message qu'on essaye, nous, de faire passer en impliquant le maximum de citoyens qui soient intervenants ou sympathisants des actions de notre association.
On peut également solliciter une intervention. Ça s'adresse plutôt pour les enseignants, pour les établissements, ou c'est pour tout le monde?
Alors, plutôt effectivement pour les enseignants et les chefs d'établissement, on intervient sur la France entière. Voilà, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, on fera en sorte de pouvoir vous envoyer deux intervenants, puisqu'on a un principe d'intervention en binôme. Et donc, effectivement, n'hésitez pas. Il y a un formulaire en ligne sur notre site internet qui vous permet de solliciter une intervention. Il y a également la description de tous nos modules d'intervention sur notre site internet. Et on peut également faire du sur-mesure. Si jamais vous avez un besoin particulier, vous souhaitez traiter avec votre classe une thématique en particulier, faites-nous la demande, et nous, au travers de notre vivier d'intervenants, on en a plus de 200, et on a des adhésions très nombreuses ces temps-ci, signe que le sujet est d'intérêt, ou en tout cas intéresse, et on essaiera de monter un module pour vous particulier, dans la mesure de nos capacités, mais qui progresse, pour pouvoir intervenir dans votre établissement.
Et pour aller plus loin, rendez-vous sur le site parlons-democratie.fr. Alors, les institutions qui font partie du patrimoine français, ça tombe bien car chaque mercredi, on parle également du patrimoine en France avec notre chroniqueuse. Et nous retrouvons Philomène Villard qui nous parle de la grande campagne de sauvegarde du patrimoine mobilier que mène actuellement la sauvegarde de l'art français et Alliance France sur tout le territoire français. Bonjour Philomène.
Bonjour Melchior. Oui, pour la troisième année consécutive, la sauvegarde de l'art français unit ses forces avec Alliance France pour une nouvelle édition du plus grand musée de France, une campagne dont on a souvent déjà parlé ici. Alors les auditeurs assidus s'en souviennent sûrement, le plus grand musée de France, c'est ce programme d'aide à la restauration du patrimoine mobilier qui a été lancé en 2013 par la sauvegarde et qui vient aider financièrement des petites communes à restaurer leur patrimoine mobilier dans l'espace public. Et comme notre but, c'est aussi de faire connaître ce patrimoine qui est souvent méconnu, on implique la société civile dans chaque campagne en travaillant avec des étudiants, des lycéens ou bien des salariés d'entreprise, comme c'est le cas ici avec Alliance.
Alors justement, cette campagne avec Alliance, comment elle fonctionne, Philomène Villard? J'ai écorché votre nom tout à l'heure, je suis confus.
Oui, alors ça prend la forme, cette campagne, d'un grand concours national qui va permettre de désigner 16 œuvres ou objets visibles dans l'espace public et qui nécessitent une restauration. Alors pourquoi 16? Parce qu'en fait, il y aura une œuvre par région, dans chacune des 13 régions métropolitaines, mais aussi des trois zones regroupées des DROMCOM, que sont l'océan Indien, le Pacifique et les Amériques. Et donc à la fin du concours, chacune de ces 16 œuvres recevra un don de 8000 euros d'Alliance pour aider à financer sa restauration.
Et comment sont choisies les œuvres?
Et oui, bien sûr. Alors il y a trois grandes étapes. Ça a commencé en septembre dernier par une chasse au trésor géante où les agents et les collaborateurs d'Alliance, mais aussi le grand public, puisqu'on veut toujours que ce soit participatif, étaient appelés à nous signaler des œuvres ou des objets qui leur semblaient en mauvais état et qui sont visibles dans l'espace public. Alors, il n'y a pas de contrainte sur la nature de l'œuvre ou de l'objet. Il faut seulement qu'elle soit accessible à tous gratuitement et qu'elle appartienne à un propriétaire public ou éventuellement à une association. Donc, si on veut prendre un exemple concret, vous, Melchior, par exemple, oui. On sait que vous êtes particulièrement attaché au Pays Basque.
Oui.
Vous auriez pu nous signaler, à tout hasard, l'état alarmant d'un de ces nombreux, vous savez, retables baroques qu'on peut voir dans les églises basques. Bon, je suis désolée, en l'occurrence, la phase de chasse au trésor s'est terminée fin janvier, donc c'est trop tard pour cette année. Mais pas d'inquiétude, Melchior, vous pourrez retenter le coup l'année prochaine. Et grâce à cette première étape de chasse au trésor, cette année, on a reçu le signalement de pas moins de 246 œuvres et objets de toute nature. Donc il y a eu des statues et des tableaux, bien sûr, mais on a aussi eu deux bateaux, une machine à imprimer du XVIIIe siècle ou même un pressoir à raisin du XIIIe siècle. Donc vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ensuite, avec Alliance, on a présélectionné trois candidatures par région en fonction de leur intérêt artistique ou historique, mais aussi de la motivation des porteurs de projets.
Alors rapidement, Philomène, vous nous avez parlé d'une œuvre gagnante par région. Donc finalement, qui choisit les gagnants?
Eh bien, c'est vous, Melchior, mais c'est aussi vos invités du jour et puis tous vos auditeurs, puisqu'on est en effet dans la dernière phase de la campagne et on appelle le grand public à voter pour une œuvre par région. Donc n'importe qui peut voter en ligne sur le site de la sauvegarde de l'art français. C'est très facile, c'est très rapide. Il faut simplement une adresse mail. Et vous pouvez voter soit juste pour votre région, mais aussi pour chacune des autres régions, si vous êtes curieux. Et si je vous en parle aujourd'hui et que j'insiste, c'est que les votes seront clôturés demain, jeudi à minuit. Donc à vos claviers. Non seulement ça vous permettra de voyager dans toute la France depuis votre canapé, mais en plus, en quelques clics, vous contribuerez à sauver des merveilles peu connues du patrimoine de nos régions.
Eh ben, rendez-vous sur le site de la sauvegarde de l'art français. On mettra le lien directement vers le concours sur notre site rcf.fr. Merci beaucoup Philomène Villard. Et ben, ça passe très vite. Merci Éric Buge également d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Parlons Démocratie, à retrouver sur le site parlons-démocratie.fr. Willy Breton, merci, ancien adjudant et ancien officier de police judiciaire et président de la Fédération du Mémorial de l'OTAN, à retrouver sur le site nato-memorial.eu. On mettra tout ça sur notre site, ne vous inquiétez pas. Merci à Pascal, à l'équipe de Radio Notre-Dame et à Catherine au standard. On se retrouve demain avec grand plaisir de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis. Bonne journée à tous.